Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Au Royaume du Maroc, les femmes ont investi tous les champs de l'activité sociale, politique et économique. Elles y sont aidées par la loi et pourtant, à bien des égards, elles font face quotidiennement à un pouvoir patriarcal rétrograde et machiste. On parle beaucoup des combattants étrangers qui vont faire la guerre en Syrie. Orient Hebdo s'intéresse aux habitants qui, de part et d'autre de la frontière turco-syrienne, ont fait du passage de ces jeunes gens un véritable commerce. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchantier au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Aïcha Barkaoui, bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences du langage, professeur à l'université de Casablanca, vous êtes spécialiste des questions de genre. Alors, vous avez participé il y a quelques jours aux 5e rencontres de Cybelle à Marseille, organisée par l'association Euromed IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, dans le cadre de la semaine économique de la Méditerranée. Vous y avez notamment parlé de l'égalité hommes-femmes au Maroc, l'égalité hommes-femmes dans le domaine économique. Précisément, justement, où en est cet équilibre entre les hommes et les femmes?
Malheureusement, quand on parle de l'égalité hommes-femmes au Maroc, surtout l'égalité économique, il y a beaucoup d'obstacles qui freinent justement cette égalité, notamment au niveau des lois, au niveau des politiques publiques et aussi au niveau culturel et psychologique. Au niveau politique, c'est vrai que l'État ne participe pas vraiment dans l'élaboration de lois ou même, d'après la Constitution et d'après l'article 19, la loi dit en fait que il y a une égalité entre les hommes et les femmes et surtout il faut agir et instaurer la parité. Mais malheureusement, ça reste vraiment que de la théorie parce que la loi, jusqu'à maintenant, n'est pas vraiment appliquée. Donc, nous, on essaie justement de voir pourquoi ces lois ne sont pas appliquées et quels sont les obstacles qui freinent l'application de ces lois. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau social, la société civile et les mouvements et des associations féministes essaient justement de sensibiliser en fait les femmes à agir et réagir en fonction de toutes ces discriminations pour arriver justement à s'épanouir au niveau économique, social, culturel et aussi psychologique. Je dis culturel parce que maintenant, avec la remontée malheureusement de cette religiosité, en fait cette traditionnalisation de la société, on revient à des schémas archaïques, à des schémas machistes. Ça veut dire que la femme peine maintenant à trouver sa place dans la société.
Alors par exemple, quand le Premier ministre suggère que les femmes retournent à la maison pour laisser le champ du travail libre pour les hommes, ça c'est une discrimination nouvelle au Maroc?
Oui, justement, ça c'est une discrimination pas nouvelle, mais c'est le discours. C'est vraiment au niveau du discours, ça veut dire que ça agit encore plus. Le fait qu'un Premier ministre prononce cette phrase montre qu'il y a vraiment un désarroi, montre que le problème, il est un problème de fond, un problème structurel et structurant. Ça veut dire structurel, ça veut dire que c'est vraiment, ça vient de fond et structurant parce que ça change toute une configuration de la société marocaine. Ça veut dire qu'on est encore dans ce schéma archaïque, la femme est à la maison et l'homme, le seul qui peut s'épanouir de l'espace public.
Pourtant, les femmes sont actives au Maroc, elles l'ont été depuis l'indépendance et elles créent des entreprises.
Justement, la femme, elle est très active, elle est très dynamique au Maroc, même pendant le protectorat, on a vu les preuves, on a vu qu'elle avait agi justement pour l'indépendance, qu'elle a travaillé à côté des hommes pour arriver à cette indépendance et depuis, elle n'a pas cessé de travailler, de rester dynamique pour justement améliorer la situation de la femme et sortir de toutes ces discriminations.
Aïcha Barkaoui, des femmes qui accèdent à des postes de responsabilité ou des femmes qui créent des entreprises, il y en a beaucoup au Maroc.
Heureusement qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs femmes au Maroc qui sont dynamiques, pas seulement des femmes entrepreneurs, qui créent leur entreprise et qui sont aidées par la société civile, qui sont aidées par les associations féministes comme la FEM, l'association des femmes entrepreneurs au Maroc. Ces femmes sont très actives, elles créent elles-mêmes leur entreprise et elles sont à côté des hommes dans le développement du durable dans le développement économique du pays. Ça, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Même au niveau économique, il y a des femmes qui travaillent, qui essayent justement de développer l'économie en développant des idées nouvelles et de nouvelles stratégies pour ce faire. Sans parler aussi de la femme active marocaine dans tous les domaines, que ce soit dans la recherche, dans l'enseignement et dans d'autres filières. Et elle essaye justement de sortir de ces discriminations et d'aider dans le développement, justement. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que la femme, elle est là à côté de l'homme pour le développement durable, pour l'épanouissement de l'économie et de la société et aussi la culture marocaine. Alors qu'on a remarqué que la culture marocaine, c'est elle qui freine ces femmes. Peut-être qu'il faut revenir à l'éducation, peut-être qu'il faut revenir à tous ces éléments pour changer les mentalités. Et malheureusement, comme on a dit, les mentalités ne peuvent pas changer sans changer les lois et pratiquer surtout les lois. Donc peut-être pour ce faire, il faut agir sur les politiques publiques et aider cette société civile à sortir de ce dilemme.
Aïcha Barkaoui, professeure à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à Aïn Chok de Casablanca, au Maroc. Un entretien réalisé la semaine dernière à Marseille dans le cadre des 5e rencontres de Cybelle organisées par l'association Euromed IHEDN, des rencontres pluridisciplinaires destinées à mieux comprendre la Méditerranée et à y faire vivre l'idée d'un développement en commun nord, est et sud. Dans son clip « Ha Kliyam Hapsa », le rappeur marocain Mr. Crazy, 17 ans, raconte le désespoir des jeunes dans les quartiers populaires de Casablanca, des paroles qui l'ont conduit en prison pour 3 mois.
« Swatch des verres, les fesses au pire. Ana ou chéri, hal cobra ma l'Air Max, le hla ou des mari, le gilb andi mfari, 17 cash brie, ou l'hennana kachfari, le mkhsen ma la bali, fsn a kouchi diali, le mkif ram le pedha, le skrch, le zoube bali, taqa la doub chama, kan aqalch a la jari, la tfat andi sora bli, le diali msari, le fanit ki khdem, sha kanjib nhari. عيشة مهبولة ضد الدولة كنتسنى في قداري عز راسي براسي ما كنقولش لباعطيني سيلو زربية وحيوان باش كنحل عيني.
Soutenu par l'ONG Human Rights Watch, Mr. Crazy est sorti de prison ce mercredi.
Orient Hebdo sur RFI.
François Vignol, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à M6, vous co-signez aux éditions du Moment un livre consacré à ces Français qui partent faire la guerre en Syrie. Ça s'appelle La France du djihad. Dans ce livre passionnant qui retrace les parcours de nombreux jeunes gens, hommes et femmes, qui partent du jour au lendemain, parfois avec les conjoints et les enfants, vous décrivez une région de Turquie, celle d'Antakya, et plus précisément la ville frontière de Reali. C'est le point de ralliement préféré des candidats étrangers au djihad. Alors comment est cette ville ?
C'est une ville qui a énormément changé parce que au départ c'est une ville commerçante, vous l'avez dit, qui est à la frontière de la Syrie. On y fait beaucoup de commerce, on y fait aussi beaucoup de contrebande. Et bien depuis 2-3 ans, cette ville a vu arriver des nouveaux touristes, des touristes un peu particuliers parce que ils ne viennent pas visiter cette magnifique région d'Antioche, mais ils y passent simplement quelques heures. Une nuit courte, et bien pour prendre au petit matin, dans un hôtel souvent miteux, une camionnette et rejoindre le front syrien. Et cette nouvelle population qui est arrivée, eh bien finalement a suscité de nouvelles vocations auprès de la population, eh bien qui ont vu ces gens qui avaient un peu d'argent et donc sont devenus commerçants, mais des commerçants un peu particuliers puisque ils vont leur apporter souvent un transport pour aller jusqu'à la Syrie, parfois un équipement aussi, parfois même des armes.
Alors vous rencontrez un certain nombre de gens sur place, vous et l'équipe qui a travaillé avec vous pour la réalisation de ce livre, notamment vous rencontrez Ibrahim, il est hôtelier, alors lui il a vu les choses beaucoup changé ces derniers temps.
Oui, parce qu'il vivait très chichement dans cette ville. Et puis, eh bien, il a vu des personnes de différentes nationalités arriver avec toujours la même question. Est-ce que on peut aller en Syrie? Est-ce que vous pouvez nous aider pour aller en Syrie? Il y a des gens, je vous disais, de toutes nationalités et il y a des Français. Des Français qui parlent à peine arabes, qui ont souvent un traducteur automatique pour dire les quelques mots et pour pouvoir vivre dans cette ville quelques heures. Et lui, il a vu tout le profit qu'il pouvait avoir de ces nouveaux touristes.
Néanmoins, les commerçants ont de quoi faire des affaires.
Oui, bien sûr, parce que ces gens, comme tout touriste, vont manger. Ces gens vont essayer de trouver du matériel. Souvent, ils sont partis très rapidement de France parce que ils pensaient être pris par les services français ou les policiers. Donc, ils doivent partir rapidement. Et une fois qu'ils sont là-bas, eh bien, ils n'ont pas tout le matériel. Donc, ils vont chercher des choses très simples pour vivre là-bas, c'est-à-dire des lampes torches, par exemple, des effets vestimentaires, des armes. Et forcément, quand il y a une demande, eh bien, il y a une offre qui va se créer, notamment dans cette ville de Réanly, où tout un commerce a fleuri sur cette activité.
Et puis il y a les passeurs, et notamment Ramzan, que vous avez rencontré.
Oui, alors c'est quelqu'un qui est allé pour nous, hein, qui a rencontré Ramzan, qui raconte qu'au départ il était agriculteur, qu'il avait son champ d'olives, ses quelques ânes, et il vivait le plus simplement du monde. Et puis à un moment donné, il a vu de l'autre côté de la frontière syrienne, quelqu'un qui lui a dit « Est-ce que tu peux me ramener ? Est-ce que tu peux me ramener en Turquie ?» Et puis lui, il connaissait bien sûr les gens aux douanes, il connaissait aussi l'endroit pour passer et pour ramener cette personne. Et puis, rapidement, ce sont d'autres personnes, mais cette fois-ci, côté turc, ils lui ont dit, est-ce qu'on peut faire le chemin, mais le chemin inverse? Et donc, il va commencer ce petit commerce, il va se rendre compte que c'est un commerce juteux, qui lui rapporte beaucoup plus que son activité agricole, et puis, il va convoyer 10, 12, 13, 15 personnes à raison de 50 euros. C'était il y a quelques mois. Depuis, on a appris que les prix ont flambé. Et va ramener ces gens, ces djihadistes, dont des djihadistes français, qui vont arriver parfois en famille avec leurs enfants. Il va les ramener côté syrien sans trop pour autant leur poser de questions, parce qu'il sait que la règle dans ce boulot-là, c'est la discrétion.
Mais finalement, la population civile locale profite de la situation.
Oui, totalement, parce que ça a engendré des devises, des gens qui sont arrivés avec un budget souvent qui oscille entre 500 et 1500 euros. Et ces gens vont devoir manger, ces gens vont devoir passer la frontière, et forcément la ville va changer, ce qui va d'ailleurs susciter quand même un peu la colère de certains édiles dans la ville qui disaient « c'est pas notre vocation à faire passer ces gens-là ». Et puis à un moment donné, ça va changer le visage de cette ville, et puis ça va susciter aussi les critiques au niveau international. On l'a vu ces derniers mois, les pays de la coalition, et notamment en France avec Bernard Cazeneuve, ont dit « aujourd'hui, un travail qu'on doit faire en Turquie, ce pays ne peut plus accepter le passage de ces Français qui vont faire des choses quand même un peu particulières, des choses plutôt horrifiantes en Syrie.
Merci François Vignol, journaliste pour la chaîne de télévision française M6, co-auteur du livre « La France du djihad » aux éditions du Moment.
Merci beaucoup.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, il paraît qu'une guerre ferait rage en Israël entre les différents services de sécurité.
Tout à fait. Une violente polémique qui fait la une de toute la presse oppose le Shin Bet, le service de sécurité intérieure, chargé, je cite, de la lutte antiterroriste, et l'état-major de l'armée. Trois agents du Shin Bet ont brisé la voie du silence en affirmant à la télévision qu'ils avaient mis en garde dès le mois de janvier les militaires sur le projet du Hamas de déclencher une guerre en juillet. Selon eux, l'armée n'aurait pas tenu compte de cet avertissement et ne se serait pas préparée à ce scénario. Le général Benny Gantz, le chef d'état-major, a crié au scandale et dénoncé cette campagne mensongère, tandis que Benjamin Netanyahou, dont dépend le Shin Bet, a tenté de calmer le jeu. Les éditorialistes soutiennent la version de l'armée dans cette affaire, qui rappelle à tous le traumatisme de la guerre de 1973, lorsque le Mossad, les services de secret et les renseignements militaires s'étaient mutuellement accusés de ne pas avoir prévu l'offensive lancée par les pays arabes, dont l'Égypte.
Alors Alexandre, les journaux, vos journaux s'inquiètent, eux, des menaces proférées contre les pays arabes par le calife autoproclamé de l'organisation État islamique.
Oui, dans une déclaration audio qui a été authentifiée par des experts, Aboulbakr al-Baghdadi, que les Irakiens donnaient comme mort dans un raid aérien, menace aujourd'hui d'étendre son califat à l'Arabie Saoudite, qualifiée de tête du serpent, mais aussi à l'Égypte et à la Libye. Le problème, selon les éditorialistes arabes, c'est que l'organisation de l'État islamique dispose de nombreux partisans dans les pays cités. Alors certains sont à visage découvert, comme en Égypte et en Libye, mais d'autres attendent le moment opportun pour agir, comme en Arabie Saoudite. Le problème du monde arabo-musulman, pensent les islamologues, c'est que le discours religieux est rigide et passéiste et il a engendré l'extrémiste musulman, mais ce discours n'a pas changé. Alors il y a bien des condamnations ponctuelles, mais pour l'instant, il n'y a aucune remise en question de la part des autorités religieuses. Alors ceci combiné à la frustration de nombreux musulmans qui estiment être victimes d'une conspiration mondiale, forme une sorte de mélange prêt à exploser à tout moment, pensent les spécialistes.
Alors plus précisément, au Caire, Alexandre, les journaux estiment que l'Égypte serait la cible prioritaire de l'État islamique au-delà de l'Irak et de la Syrie.
Oui, et une affirmation qui est due à la série d'attaques et d'attentats qui ont fait une douzaine de morts et une trentaine de blessés au cours des deux derniers jours. Et selon les journaux égyptiens, cette recrudescence de violence est due à l'allégeance faite récemment par le groupe Ansar Beit al-Maqdis à l'organisation de l'État islamique. Alors des djihadistes qui ont même changé leur nom pour devenir la Wilaya du Sinaï, une des provinces du califat de l'État islamique. Alors des éditorialistes accusent les frères musulmans, mais aussi le Qatar, la Turquie et même les États-Unis et Israël de soutenir ou de profiter des mouvements terroristes qui visent à détruire la dernière grande armée arabe, l'armée égyptienne.
Puis toujours sur le même sujet, Alexandre, le journal Al-Hayat plonge dans les ramifications de l'État islamique en Allemagne.
Oui, et selon le reportage, les Allemands qui pensaient être de simples spectateurs dans le drame syrien se sont réveillés sur un cauchemar. Les partisans de l'organisation de l'État islamique se sont répandus en Allemagne par le biais des médias sociaux au sein de la communauté musulmane et notamment turque. Alors l'Allemagne, rappelle le journal, est le principal pays européen qui accueille des travailleurs turcs, dont beaucoup sont d'ailleurs devenus allemands. Résultat, selon le reportage, toute femme voilée est perçue par certains comme étant une djihadiste et tout homme barbu comme un kamikaze potentiel. Alors un constat d'échec aussi pour la politique allemande d'intégration qui est aujourd'hui remise en question, constate Al-Hayat.
Christian Brunel, les médias font-ils grand cas de la rencontre ce jeudi entre l'Américain John Kerry, l'Israélien Benjamin Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie pour tenter de calmer le jeu à Jérusalem?
Effectivement, tous les commentateurs expriment l'espoir que cette rencontre va permettre d'éviter que le conflit israélo-palestinien vire à la guerre de religion. Benjamin Netanyahou s'est engagé à ne pas changer le statu quo sur le chemin des mosquées, autrement dit à ne pas permettre aux juifs de prier sur le troisième lieu saint d'islam, qui est également le site le plus sacré du judaïsme. Les journaux ont fait leur titre sur le fait que pour la première fois depuis des mois, aucune limitation d'âge n'a été fixée pour les musulmans venus pour la prière de ce vendredi sur le chemin des mosquées qui s'est déroulé dans le calme.
Et à ce propos, Christian, comment réagissent les Israéliens à la récente vague de violence à Jérusalem, à Tel Aviv et en Cisjordanie?
Les médias reflètent l'angoisse de la population qui redoute d'être confrontée à de nouveaux attentats à coups de couteau ou à la voiture bélier de Palestiniens qui foncent vers des stations de tramway. Le quotidien Maariv consacre par exemple 2 pages entières à des témoignages de ses lecteurs. La plupart d'entre eux expriment la crainte d'être pris pour cible d'une attaque. Résultat, selon un reportage à Machane Yehuda, le grand marché populaire de Jérusalem, la peur ambiante a fait baisser de moitié le nombre d'acheteurs.
Alexandre, selon le journal Kerot Al-Tahrir, l'Égypte chercherait à améliorer son image au niveau des droits de l'homme avant un voyage du président Sissi en France.
Oui, et cela a commencé par les ONG, des ONG qui avaient jusqu'au 10 novembre pour régulariser leur situation, conformément à une loi de 2002 qui est considérée comme contraignante par les organisations de défense de droits de l'homme. Mais le délai terminé, le ministère de la Solidarité sociale, qui est en charge du dossier, a indiqué qu'il n'en n'engagera pas de poursuite contre les ONG qui ne se sont pas conformées à la loi. Et par ailleurs, le président Sissi a adopté un décret-loi qui lui permet d'extrader les accusés ou condamnés étrangers vers leur pays d'origine. Alors une loi qui pourrait être appliquée au journaliste australien de la chaîne de télévision Al Jazeera qui a été condamné à 7 ans de prison en Égypte.
Et pour conclure, Christian Brunel, votre photo du jour, ou plutôt une caricature?
Oui, dans le quotidien d'opposition de gauche à Arès, on voit Avigdor Lieberman, le très dur ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, la ministre de Justice, et Yair Lapid, le grand argentier, en train d'aiguiser des couteaux en prévision d'une campagne électorale qui s'annonce particulièrement sanglante.
Merci Christian, merci Alexandre, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. N'hésitez pas à nous réécouter sur internet, www.rfi.fr, rubrique émission, et à nous retrouver sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
En sol majeur.